Valérie Baudouin, bonjour.
Bonjour Paul.
Laurence Haïm, qui est à Washington depuis plusieurs années, notre correspondante que vous connaissez, a terminé cette entrevue que nous avons réalisée avec elle il y a une demi-heure à peine en disant « Je n'ai jamais vu Washington de la façon dont on voit Washington en ce samedi matin. Ville fortifiée, 25 000 agents, soldats, pour protéger le Capitole seulement, et tout ça à quelques jours de l'assermentation du nouveau président. »
Oui, je suis d'accord. Quand je vois les images de Washington, j'ai l'impression de voir une ville qui est déserte. Hein? J'ai déjà habité brièvement Washington et j'ai jamais vu ça, même si on dit toujours, bon, c'est une ville de fonctionnaires, des fois c'est tranquille. Mais là, voir les images de Washington comme ça, barricadées, et voir la garde nationale, là, pour les gens qui ont vu les images, on dirait vraiment que c'est justement une armée qui entoure le Capitole. C'est presque choquant de voir à quel point c'est fortifié. Et je trouve ça vraiment dommage aussi. Bon, bien sûr, il y a le contexte de la pandémie, mais que le National Mall, donc l'endroit où les gens se réunissent pour voir le nouveau président assermenté. L'accès est déjà, c'est déjà fermé, c'est déjà interdit. On dit même que ça pourrait être prolongé plus tard. Donc, Washington, qui est vraiment dans un état d'attente en ce moment, justement. Et j'entendais des gens dire, des journalistes aussi, mentionner que la dernière fois qu'ils ont vu une telle tension à Washington, c'était après le 11 septembre 2001. Quand on était justement dans l'attente à se dire, est-ce qu'il va y avoir d'autres attaques? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vraiment, on voit qu'il y a une tension aux États-Unis, donc au Capitole, mais aussi, Paul, il ne faut pas l'oublier, dans les 50 États américains où on est aussi en alerte. Il y a la garde nationale aussi qui est déjà demandée en Californie, dans l'État de Washington, au Kentucky, entre autres. On a donc fermé aussi des monuments dans plusieurs États parce qu'on s'attend à ce qu'il pourrait y avoir des attaques en quelque sorte coordonnées dans tous les États américains, un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, là, mais à l'échelle nationale.
Et ce que vous dites est vrai. Il n'y a pas seulement Washington, vous l'avez dit, il y a eu des menaces, semble-t-il, qui ont été perçues, détectées par le FBI et qui viseraient les autres capitales. Hein. Vous savez que chacune des capitales de chacun des États américains a son capitole. Et donc, il y a eu des menaces très précises. Et Valérie, ce qui est inquiétant, c'est que Laurence Haïm disait « Le FBI ne fait que renforcer cette inquiétude. » Ce matin, le FBI dit « Nous sommes au courant de plusieurs rumeurs, de plusieurs choses. Ce qui nous fait le plus peur, nous, le FBI, c'est ce dont nous ne sommes pas au courant. » C'est pas
évidence.
Rassurant.
Non, c'est ça exactement. Et moi, ce qui me rassurerait pas comme Américaine si j'étais là, c'est le fait aussi que ça a été si facile d'entrer au Capitole la première fois et que c'est passé sous le nez des autorités. Bon, il y en a qui disent que l'information s'est pas rendue. Pour quelle raison? Ça, il y aura enquête par la suite. Mais c'est pas rien qu'on a réussi là, à rentrer aussi facilement au Capitole. Donc oui, il y a Washington, mais il y a partout aux États-Unis. Il y a une manifestation demain, d'ailleurs, en Floride. Et là, on est le gouverneur qui est en état lui aussi d'alerte parce qu'il dit s'il y a des contre-manifestants, on va déjà être dans cette espèce d'esprit où il va y avoir un danger de confrontation, une manifestation dans un autre état pour les pro-armes. Alors, vous voyez, là, la tension, là, ça s'en va de jour en jour. On n'est pas encore au 20 janvier, mais déjà, on craint d'autres démonstrations, on craint d'autres attaques. On craint que les esprits s'échauffent finalement parce que on le voit que l'FBI fait enquête, on tente d'arrêter, d'accuser ces personnes-là, mais il y en a qui trouvent que ça va simplement pas assez vite.
Alors, il n'est même pas encore assermenté, mais Joe Biden est passé à l'action cette semaine. Il annonçait un ambitieux plan de vaccination pour lutter contre la pandémie, mais aussi, il a annoncé des mesures de soutien aux gens qui, évidemment, se retrouvent aux États-Unis en chômage et tout ça. Bref, il a annoncé là un plan à hauteur de 1 900 milliards de dollars, près de 2 000 milliards.
Exactement. Et ça, c'est pas une surprise dans le sens où Joe Biden a toujours dit qu'une fois qu'il serait président, son objectif, sa priorité numéro un allait être la pandémie, hein, la COVID-19. Donc, au niveau autant financier qu'au niveau de la vaccination. Donc, ça va vraiment dans cette même lignée-là. Il a dit les États-Unis étaient en guerre avec le virus, hein, qu'il n'avait pas peur que le gouvernement intervienne au maximum, qu'on utilise toutes les facettes du gouvernement pour accélérer le processus. Il a parlé de ce qu'on appelle le Defense Production Act. Justement, c'est pour que les entreprises privées aident à toute cette gestion-là de la vaccination, dans le sens le matériel médical qui entoure la vaccination pour aider à créer tout ça. On a un budget quoi de 20 milliards de dollars pour accélérer la vaccination, donc ça va devoir quand même passer au Congrès. Et son objectif, 100 millions de doses dans les 100 premiers jours de sa présidence. 100 millions de doses en 100 jours. C'est pas rien quand même.
J'espère que Pfizer va être capable de lui faire parvenir les doses.
Exactement, parce que, écoutez, c'est un plan très, très ambitieux. Lui, il dit que c'est faisable. Mais dans son point de presse, il a aussi parlé d'un autre élément intéressant, le fameux masque aux États-Unis. Parce que si on se rappelle bien, il y avait aussi dans ses promesses électorales de dire le masque sera obligatoire dans les 100 premiers jours de sa présidence. Et je vais vous faire entendre ce qu'il a dit parce qu'il y a un lien direct avec ce qui s'est passé aussi au Capitole, parce qu'on a vu des images de républicains qui refusaient carrément de porter un masque quand on était dans des lieux clos, qui disaient, ou même si on en distribuait, ils le refusaient. Je vous laisse entendre Joe Biden.
Quite frankly, it was shocking to see members of the Congress while the Capitol was under siege by a deadly mob of thugs refusing to wear a mask while they were in secure locations. And a Republican college refusing to put them on. What the hell's the matter with them? It's time to grow up.
Alors, il fait référence aux gens du Congrès qui se sont retrouvés dans une pièce pour leur sécurité lors de la prise d'assaut du Capitole. Et puis, sans respecter justement des consignes de distanciation ou de port de masque, ben, il y a eu transmission du coronavirus.
Ben oui, il y a de plus en plus de cas au Congrès. Et écoutez, j'ai vu les images, Paul, on voit, et c'est une élue du Delaware d'ailleurs, là, il l'a remercié aussi dans son discours, qui distribuait des masques et les gens avaient les pieds pratiquement sur la table en disant « Non, j'en ai pas de besoin, il y a pas de problème », puis en riant de la personne qui distribuait les masques. Et là, on a malheureusement des cas de coronavirus.
Et rapidement, Valérie, parce que vous serez de retour demain, la NRA, la puissante association des gens qui prônent les armes, est en faillite.
Oui, imaginez-vous déclarer faillite à New York, mais pour se réinstaller par la suite au Texas, c'est une façon d'éviter les poursuites judiciaires.
Oh, c'est quand même ironique.
Pourtant, oui, assez.
Parce qu'il s'est vendu 23 millions d'armes à feu depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Vous vous rendez compte?
Ben oui, on essaie d'éviter les poursuites et c'est la façon qu'on a trouvé de faire.
À demain.